Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à minuit. L'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h24, Stéphane Guy est là, Daniel Riolo est là également, l'after jusqu'à minuit en direct bien sûr. Et si vous avez raté le poker, c'est hier soir qu'on aura diffusé le poker, on est mardi là.
Je
me trompe de jour.
Nous sommes mardi Gilbert, je confirme.
Non parce que en fait je pensais à ce qu'il y a après minuit, mais hier
2 avril, l'anniversaire de la mort de Georges Pompidou.
Ah,
ça n'intéresse personne.
Excellent documentaire sur Pompidou.
De Georges Pompidou.
Je vous le conseille. Sur les plateformes, il est passé il y a quelques jours.
D'accord.
Rien à voir avec le doc sur l'affaire Markovitch, c'est pas du tout la même histoire. C'est vraiment Pompidou.
Non, là, c'est vraiment Pompidou.
Ah oui, d'accord.
C'est
vraiment Pompidou. Grand président, évidemment.
Au moins grand que le précédent, mais. Mais mieux que quelques-uns de ceux qui ont suivi.
Yoann Crochet.
Tu sais qu'entre les deux, il y a eu un intérimaire. N'oublions
oui,
pas.
Oui, c'est vrai.
C'est le président du Sénat.
Absolument.
Est-ce qu'il est là, Yoann?
Et vous les avez tous connus de votre vivant. Bonsoir, messieurs.
Alors, non, pardon. Moi, quand je suis né, Alain c'était
Power,
Giscard.
Alain Power, non, moi, je ne l'ai pas connu.
Moi, quand je suis né, c'était Pompidou.
Quand je suis né, c'était Pompidou. Ah oui, Gilbert est jeune. Hein,
moi, je suis un giscardien, vous êtes des pompidoliens.
On n'est pas plus. Moi, je suis mort. Je suis mort. Je suis né. Dieu merci. Quelques jours avant la mort du général de Gaulle. Donc, je veux dire, j'ai connu de Gaulle.
Alors que Jean-Michel Larquet est un Napoléonien.
Ah bon?
Non, j'exagère un peu. Bon, alors, si t'es là.
Yoann, c'est Génération Mitterrand, Yoann.
Non, président de naissance, c'était qui, toi,
Génération Mitterrand, Yoann.
Ouais, Mitterrand, évidemment.
Aïe.
Pas de bol.
Polo Breitner est là également. Salut, Polo.
Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde.
Bon, Polo, c'est génération Helmut Schmidt. Helmut Schmidt.
Plutôt comparé à Pompidou évidemment, mais ça y a même pas la photo. Mais non, je suis né sous Pompidou aussi. Ouais.
Très bien.
Chancelier d'Allemagne sous Pompidou, Willy Brandt? Non.
Je sais même plus. Attends, parce que ça commence à dater. Non.
Helmut Schmidt.
Je dirais plutôt lui, moi, mais non, bon.
Bon, c'est pas très grave.
Polo te dirait Eric Honecker, là, c'est spontanément.
Oui, pardon, Polo, je te parlais de la RFA. C'était peut-être le président de la RDA qui t'intéressait à l'époque, je sais pas.
Il faut préciser.
Bon, si vous êtes là, c'est parce qu'il y a eu des matchs chez vous ce soir. Et la Juve, que se passe-t-il? Bouge encore.
A gagné un match.
Bouge encore, Johan.
La Juve a gagné un match, on n'était plus trop habitués, ça fait un peu bizarre ce soir.
Ludwig Erhardt.
Ah oui.
Adenauer est parti en 67.
Bon, vas-y, Johan, enchaîne.
Non, en fait, la première mi-temps de la Juve est catastrophique, dans la lignée de ce qu'on voit depuis un mois et demi, voire même deux mois maintenant. Et en deuxième mi-temps, alors la Lazio a pas créé grand-chose, voire même a quasiment rien créé du match, mais elle a toujours été cette Lazio qu'on avait vue en match de championnat, puisque la Lazio et la Juve se sont affrontées aussi en championnat ce week-end. Et donc, il y avait une grande agressivité, une grande intensité mise par les joueurs de la Lazio, mais il manquait la phase successive. Une fois qu'on récupère le ballon, qu'est-ce qu'on en fait et comment on s'approche du but adverse et comment on se montre dangereux, comment on se crée des occasions. Et ça, on l'a pas eu du tout ce soir. Autant la phase d'agression, de récupération du ballon était très bien faite, autant la phase suivante n'était tout simplement pas existante ce soir. Donc c'est décevant sur ce plan-là du côté de la Lazio. Ce qui fait que cette première mi-temps a été sans occasion et a été une espèce de démonstration de pressing sans ballon de la Lazio, mais aussi une démonstration de grande maladresse avec le ballon. Et du côté de la Juve, une démonstration d'une équipe très fragile, qui ne savait toujours pas quoi faire du ballon, et quand elle avait les pieds qui tremblaient un petit peu et qui perdait assez rapidement les ballons. En deuxième mi-temps, la Lazio a baissé un petit peu la garde, et puis le match a été débloqué, notamment sur une superbe passe. Je ne sais pas si vous avez vu le but de Chiesa, la passe de Cambiaso qui ouvre la défense en deux, et qui permet à Chiesa d'aller marquer le but. Et ensuite, on a une équipe de la Juve qui a pris un petit peu confiance, qui a créé des occasions. Alors non pas, je vais pas vous dire qu'elle a étouffé la Lazio, parce que la Juve n'en est pas capable.
Surtout, ça faisait tellement longtemps qu'elle jouait mais plus que mal, et encore plus mal que d'habitude, que je l'imaginais même pas capable de gagner 2-0 contre la Lazio.
Et en fait, c'est pas que la Juve n'en est pas capable, c'est que son entraîneur n'est pas capable de transformer cette Juve-là en cette équipe-là qu'on a en droit d'attendre, vu la qualité des joueurs, la masse salariale du club, les transferts réalisés année après année. Mais par contre, elle a toujours cette capacité en transition, parce qu'il y a des joueurs qui vont vite, parce que Kostic, il va vite, parce que Chiesa, il va vite, parce que quand Yildiz y rentre, il va vite, parce que Vlahovic aussi aussi, malgré son gabarit, il va vite. Parce que Wea, quand il rentre, il va vite. Parce que McKennie, il va vite. Et donc, en phase de transition, quand tu as des joueurs qui vont très vite et que tu joues très vertical avec des appuis remises très très simples et somme toute assez basiques, hein, finalement, bah, t'es quand même en capacité de mettre en danger une équipe de la Lazio qui a des individualités qui sont extrêmement moins fortes que celles de la Juve. Donc la Juve se donne un peu d'air parce qu'on a eu une journée un peu bizarre, hein. Depuis ce matin, réveil, on commençait à entendre des bah, peut-être que Allegri finira même pas la saison, c'est compliqué, on commence à faire les petits calculs de comptable, combien ça nous coûte si on doit l'écarter, qui on peut prendre pour aller jusqu'à la fin de la saison, ensuite qui est destiné à prendre les rênes de l'équipe, et c'est sans doute le grand favori, et Thiago Motta. Mais on avait une journée un peu ouais, très négative même du côté de la Juve, et finalement elle se termine bien. Je rappelle quand même que c'est le match aller et qu'il y a un match retour, puisqu'en Italie on fait rien comme dans les autres pays et qu'on aime bien faire des matchs aller-retour. Encore que maintenant il y a plus la demi-finale, avant il y avait les quarts de finale aussi, on avait même eu des finales en match aller-retour. Mais en tout cas, ça donne un petit peu d'air à l'amorce d'une fin de saison qui va être essentielle pour la Juve, qui a encore pas mal de points d'avance sur le cinquième, mais elle en avait beaucoup il y a deux mois. Et elle avait quasiment tout perdu. Donc il faut faire très attention à la Juve, à bien finir cette saison, avant sans doute de tourner une petite page cet été.
Est-ce que Guendouzi, à ton avis, était très content de retrouver Tudor? Parce que ça n'avait pas été l'amour fou entre eux à l'OM.
Ah non, loin de là. Non,
non. Et là, pas le mec, il déboule. Il doit être content, lui.
Bah, c'est, en fait, le même jour, Guendouzi apprend qu'il a appelé en équipe de France et il apprend que Tudor est son nouveau coach. Donc c'est un peu l'ascenseur émotionnel, je pense. Non, mais Tudor a dit assez rapidement en conférence de presse qu'il était content de retrouver Guendouzi, que Matteo était quelqu'un qui voulait toujours jouer, qu'il avait un très très gros caractère, qui voulait toujours gagner, et que ça c'était aussi très utile dans une équipe. Donc ça c'est intéressant. Le premier match, il n'a pas été titulaire, mais Luis Alberto ne l'était pas non plus, Immobile ne l'était pas non plus. Les trois étaient titulaires ce soir parce que je pense que c'était très important aussi pour Tudor de bien figurer dans cette Coupe d'Italie, parce que mine de rien, Tudor arrivant à la veille de la demi-finale aller, en trois matchs, il peut gagner un trophée avec cette équipe de la Lazio. Bon, finalement, ça a pas trop payé. Mais je pense que Guendouzi, sincèrement, quand vous voyez le travail qu'il a abattu au milieu de terrain avec Sarri, et les progrès qu'il a fait, et aussi au vu de la concurrence qui est, somme toute, assez modeste, même si Kamada, le japonais, va être relancé, je pense, sous Tudor.
Le match dans le match, Johan, entre Guendouzi d'un côté, Rabiot de l'autre, il y a des choses à arrondir ou pas spécialement?
Non, pas spécialement. D'accord. C'était pas un bon match, hein. Clairement, sincèrement, c'était vraiment pas un bon match.
Il y a pas de bon match avec la Juve, hein.
Oui, c'est pas faux. Mais il y a eu beaucoup de pertes de balles. Je me souviens d'un Rabiot en première mi-temps qui tente à 1-3 parce que cette agressivité a beaucoup gêné les joueurs de la Juve et qui perd le ballon. Guendouzi qui rate des passes simples aussi en deuxième mi-temps. Donc les deux ont pas fait un grand match. Mais si vous me demandez de sortir un joueur qui a fait un grand match ce soir, j'aurais beaucoup de difficultés. Sans doute Cambiaso qui est en train de prendre une belle petite dimension à quelques mois de l'Euro, qui est en plus un joueur polyvalent et qui a beaucoup progressé avec un certain Thiago Motta la semaine dernière sur le banc de Bologne. Donc attention.
Le futur entraîneur de la Juve.
De retrouvailles entre les deux exactement cet été.
Merci Johan, bonne soirée.
Merci à vous, ciao ciao.
À très vite. Polo, un mot du petit poussé allemand, Saarbrücken. Vous savez
c'est
que
fini.
Saarbrücken suivi en France parce que c'est très proche de la frontière, au nord de l'Alsace.
Ah oui. C'est bien Willy Brandt.
Entre Pirmasens et Zweibrücken. Polo connaît. Oui,
bah, tu connais un petit peu, ça.
Bah ouais, Zweibrücken, deux ponts.
Tu te rappelles.
C'est cousin pour Gilbert, hein, Polo. C'est les cousins.
Bah, hein. Écoute, si ma mémoire me fait pas défaut, je te parle sous ton contrôle, Gilbert. Après 45, comme les Français et les Allemands voulaient pas s'affronter sur un terrain de football, il y avait une forme de terrain neutre et c'était en Sarre, si je me rappelle bien, qu'on jouait là-bas.
Et Saarbrücken même a participé au championnat avec les clubs français.
Tout à fait.
Pour le coup, l'expression.
Ah oui, après la guerre?
Je sais pas. Oui. Ça tombe juste de dire que c'est les cousins germains.
Exactement. Ah, ça tombe pas mal. Bah, alors, c'était un derby d'ailleurs, parce que Kaiserslautern, c'est dans le coin aussi.
Il y a 70 km. C'est un petit peu dommage pour Saarbrück, qui avait vraiment, dans la presse allemande, une volonté de cette équipe de 3e division d'aller en finale. Et on l'a poussé un petit peu, parce que jamais une équipe de 3e division, championnat qui a été créé en 2008, n'était arrivée en finale de Coupe d'Allemagne pour y arriver. Et paradoxalement, quand tu vois leur parcours, c'est un peu le match le moins difficile pour eux, où ils tombent malheureusement à cause d'une énorme boulette à la 53e minute de leur gardien sur une tête presque anodine. Le gardien se trouve complètement et le ballon passe entre ses jambes. Et voilà, et puis après 2-0 avec Touré, l'ancien de Francfort et de Monaco. Et donc voilà, on va retrouver Kaiserslautern. Honnêtement, c'est les deux demi-finales, là, ça sent un peu l'ancien. je vais pas dire le vieux, mais c'est Kaiserslautern qui revient plus de 20 ans après.
Ils sont en D2, Kaiserslautern?
Ils sont en D2, ils sont en difficulté d'ailleurs. Je sais, si ma mémoire ne fait pas défaut, ils sont en position de barragiste. Ils ont rappelé Funkel, le vieux de chez vieux à 70 ans pour essayer de les sauver, le pompier de service. De l'autre côté, il y aura Leverkusen ou le Fortuna Düsseldorf. Évidemment, tout le monde parle de Leverkusen pour cette finale. Mais c'est vrai que avec Sarrebruck, qui était déjà en demi-finale en 2020, donc c'était évidemment pas un grand match ce soir, mais ils ont fait un parcours qui était extraordinaire, parce qu'ils ont battu le Bayern, Francfort, Mönchengladbach, etc. Ils avaient battu aussi au premier tour Karlsruhe, si ma mémoire ne fait pas défaut. Et c'était assez impressionnant. Ça fait partie de la magie, évidemment, de la Coupe, et c'est un peu dommage qu'ils ne soient pas en finale. Mais en tout cas, il y aura Kaiserslautern, donc il y aura du peuple à Berlin fin mai. Et ce soir, ce sera donc contre Leverkusen ou le Fortuna Düsseldorf qui évolue aussi en seconde division. On n'a pas vu ça depuis longtemps d'ailleurs, en fait, en
Allemagne. Est-ce qu'il y a déjà eu en finale de la Coupe d'Allemagne un Calais ou quelque chose comme ça ou pas?
J'ai pas entendu. Non.
Alors, non, comme Calais, non, oui, parce que oui, les petits clubs ne participent pas à la Coupe d'Allemagne.
Mais bien sûr que si.
Mais non, Polo.
Mais bien sûr que
oui,
si.
Oui, c'est pas le même modèle.
L'Union Berlin en 2001 est finaliste de la Coupe d'Allemagne. C'était une équipe
non,
amateur.
Non, mais ce que je veux te dire, c'est que le petit club amateur du village.
C'est ce que tu dis.
Il fait une
Est-ce que Kockenbrück joue la Coupe d'Allemagne?
Mais c'est pas la même formule, Polo.
Mais c'est pas la même formule, mais ça revient au même. En fait, c'est des coupes régionales. C'est quoi les premiers tours de coupe de France? C'est des coupes régionales finalement. Les mecs, ils ont pas d'oseille pour pas aller dans un petit club marseillais qui va à Strasbourg. En fait, c'est des coupes régionales et le vainqueur de la coupe régionale amateur va dans la fameuse
oui,
coupe
mais
d'Allemagne.
Ça favorise pas les amateurs, tu comprends bien, parce qu'ils sont moins représentés à partir du moment où les pros rentrent.
Mais c'est faux. Pourquoi? Parce que tes clubs professionnels commencent au premier tour de la Coupe de France.
Non, mais ils commencent.
Bah, ça revient au même.
Ils rentrent à quel moment les clubs pro en Allemagne de la Coupe?
Ils reviennent directement lors du après sur les 64 équipes.
Oui, mais l'écrémage des amateurs, c'est déjà fait en fait. C'est ça l'histoire.
Mais non.
Bah, en France aussi, Gilbert.
Les
clubs de Ligue 2 en France rentrent très tôt. Hein,
Ligue 2 rentre au 8e tour. Il rentre deux tours avant la Ligue 1.
Deux tours avant la Ligue 1, ouais.
Et la Ligue 1, c'est 32e de finale. Donc avant, il y a tous les clubs amateurs se tapent sur la gueule avant, voyons.
Ouais. Et en Allemagne, c'est 32e de finale, la Coupe d'Allemagne.
Et ben voilà, c'est pareil.
Il y a 64 clubs.
C'est bien, vous avez parlé 5 minutes pour rien.
Non, mais ça veut dire que Gilbert a raison. Il rentre quand même deux tours après les clubs en France. Bah si.
C'est tout.
En France, les clubs de D2, à partir de D2, rentrent effectivement au 8e tour. Donc, ils jouent deux matchs de plus qu'en Allemagne.
Polo, juste pour conclure,
ça
info
fait
du
de
soir.
En fait.
De Zerbi, on apprend ce soir qu'il n'ira pas à Liverpool, c'est Sky Sport qui le dit, et que la rumeur de Zerbi au Bayern enfle.
Il y a tous les noms qui vont
tous les noms
Bayern,
autour du Bayern.
Tout le monde est là. Depuis ce week-end, on a beaucoup parlé hier. C'était surtout, on oublie que Nagelsmann est toujours sous contrat avec le Bayern Munich.
Bien sûr.
Et à partir du moment où Xabi Alonso a dit non, il est toujours ça. Et il coûtera à la fin de l'Euro toujours 8 millions d'euros au Bayern Munich. Soit on se sépare de lui et il y a une indemnité de transfert, soit l'hypothèse, et il y a d'ailleurs un certain lobbying en Allemagne pour qu'il redevienne le coach du Bayern Munich. Matthäus notamment a dit très clairement, et il est quand même assez informé de ce qui se passe au Bayern Munich, que c'était à nouveau le favori pour redevenir le coach du Bayern Munich à partir de 2024.
Matthäus, Lothar Matthäus. Que Nagelsmann redevienne l'entraîneur du Bayern.
Ah oui, d'accord, pardon, excuse-moi. Ok.
Ah bah, le Matthäus, coach du Bayern, je pense qu'au Lyonnais, il faut qu'il décède avant.
Septième tour, le club des clubs en France. C'est pas le huitième, c'est le septième tour.
Et là, en fait, pourquoi? Parce qu'il est toujours sous contrat, parce qu'il va y avoir un énorme nettoyage d'été au Bayern, et Nagelsmann devient naturellement de retour, parce qu'il est toujours payé par le Bayern, même s'il est mis à disposition de la fédération. Et la fédération ne peut pas payer, même s'il remporte l'euro, le salaire qu'il a au Bayern Munich. Donc tout ça, c'est bien compliqué. Donc De Zerbi, oui, on en parle, mais on en parlait il y a 15 jours, ensuite il a disparu, il est revenu. Ce qui est sûr, c'est que Max Eberl passe des coups de fil un peu partout, mais Max Eberl, il sonde. Il y a Ralf Rangnick aussi qui est arrivé sur la table après l'Euro 2024 avec l'Autriche pour venir faire une pige au Bayern.
Rangnick, il va venir au Bayern, ça colle pas, quoi.
Je suis pas sûr. Et puis, il y a une autre...
De Zerbi, Daniel, c'est pareil, moi je trouve ça dingue. De Zerbi au Bayern, franchement, ça me semble pas être dans le... Enfin bon, bref.
Bon, à suivre. Polo, merci beaucoup. On se tient informé, hein, bien sûr. Et merci pour cette petite parenthèse allemande. Dans un instant, la Ligue 1, Game of Thrones lancé au PSG et Fonseca. Stéphane devait en parler. À tout de suite.
RMC, l'After Foot.